Ciné Productions, Ways Avengers vous présente Rewind Wine 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 Play.
Bonjour à tous, bienvenue dans Rewind and Play pour la 24e émission de ce merveilleux podcast. Aujourd'hui, je refais un avec toute ma petite équipe qui est toujours prête, toujours motivée pour critiquer les dernières sorties de la semaine, même si aujourd'hui on a beaucoup de sagas. Apollo, oui. Comment vas-tu? C'est par là, c'est près de moi.
Oh, bah je vais très bien, et toi?
Ça va. Un peu fatigué, mais on s'accroche.
Ouais.
J'ai également avec moi Zorgun, que vous connaissez maintenant.
Oui, en effet, je suis là. Bonjour Kéris, bonjour public.
Tu vas bien?
Oui, je vais très bien. Je suis équipé d'un nouveau micro, donc vous aurez à nouveau un son potable pour ma magnifique voix doucereuse. Oh, oh, oh.
Ça s'entend, on est très content de te retrouver sous un angle qualitatif accru. Et c'est sous ces mots compliqués qu'on va passer à Quam.
Bonjour Kéris.
Bonjour Quam. Qu'est-ce que tu me racontes de beau?
Je suis pas content.
Pourquoi?
Parce que ça fait une semaine que j'ai MGS5 et j'ai pas le temps d'y jouer parce que j'ai Rewind and Play à faire et que j'ai d'autres trucs à faire comme Mass Perfect. Je veux jouer. Laissez-moi ma liberté. Voilà.
Je te comprends très bien, je dois moi-même jouer à Metal Gear 3 et... Je ne peux pas, malheureusement, grâce à Rayman Play, le travail...
Et moi, de mon côté, j'ai fini.
Vous voyez, on reconnaît les mecs qui sont investis et ceux qui foutent rien.
Exactement.
On reconnaît les mecs qui sont investis, mais qui n'ont pas de vie à côté.
Voilà.
Oh. Mais...
Et puis sinon, Kéris, comment vas-tu, toi?
Moi, ça va très bien.
Bon, formidable. Et du coup, c'est toi qui fais la revue de presse, il me semble.
Ah oui, tiens, oui, effectivement.
Eh bah oui,
je tombe des nues.
Mais que vas-tu nous présenter cette semaine?
Cette semaine, je vais vous parler de tas de petits sujets croustillants qui sont à la barre. On avait parlé des adaptations littéraires avec SDG la dernière fois. Là, je vais vous parler des 1000 feuilletons, des séries littéraires enrichies que va nous transmettre... Xandantes, excusez-moi, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Bref, on a aussi le concours de la saga de l'été. Je vais faire le point sur les dernières choses à faire dans ce coin-là. Et on va aussi parler d'une convention à Lille du 29 au 1er novembre qui est un peu là pour nous consoler de la disparition
des
Jeux du Téméraire.
La revue de presse.
Alors, 1000 feuilletons est une plateforme d'édition numérique dédiée à la création et à la diffusion de supports de mobile de séries littéraires. L'application est conçue pour permettre à tous ceux qui aiment raconter des histoires pour travailler des textes, la publication des épisodes, enrichir la production afin d'offrir une expérience de lecture d'un nouveau genre immersif et tout ça. Donc voilà, c'est un peu une aide si jamais on a besoin de d'approfondir un peu la lecture, l'écriture du texte pour la publication d'un épisode. Entre autres. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, est-ce que c'est pratique ou pas, vous pouvez en débattre sur le topic, mais ça reste quelque chose de une idée parmi d'autres qui pourrait intéresser certaines personnes. On passe également à la convention dont je vous ai parlé. Donc vous savez que le Téméraire, on en a déjà parlé, était assez annulé quand même très annulé, puisque annulé ça signifie qu'il n'y en aura pas. Mais Silverson propose une convention à Lille du 29 au 1er novembre. Et il transmet le message de Tristan qui travaille sur Red Universe, qui gère justement qui est l'un des organisateurs de cette convention et qui invite les auditeurs créateurs de Saga MP3 qui veulent venir faire un tour sur le stand, faire partie du stand. Donc c'est une proposition qui a été fait. Donc si jamais vous habitez près de Lille ou que vous avez les moyens de vous avez les moyens d'y aller, ils peuvent vous pouvez mettre un MP à Silverson ou à Tristan, je suppose, pour faire part de votre participation, hein. Apparemment il y a vous allez sur le topic, apparemment il y a toute une organisation, vous voyez, pour le logement, pour l'itinérance, si jamais vous n'habitez pas dans le coin, ça, si jamais vous êtes vraiment déçu d'avoir perdu avoir perdu les joutes du téméraire, vous pouvez toujours aller à cette convention. Ensuite, parce que c'était pas fini, on va parler du concours de la saga de l'été 2015. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis ? On a plusieurs sagas qui sont sorties, on a la clôture de, du concours, c'est-à-dire qu'on en a parlé la dernière fois, le concours, il est fini. Et trois sagas sont sorties vivantes. Alors, trois sagas, c'est pas beaucoup. Je me rappelle d'une époque quand même où il y en avait plus. Donc, c'est... Il y a des années comme ça, il y a des années sans. Donc, j'encourage pour les prochaines années aux créateurs. Je sais pas, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et c'est vraiment une bonne expérience de participer au concours de la saga de l'été ici. Donc, j'encourage encore les créateurs à participer à ce concours. Et les sagas qui auraient été retenues cette année, c'est Casting de Richult sur un texte de Duharf. Quatre épisodes sont à l'ordre du jour. On a aussi Ragnar Chronicle de Aslag, un mono. Si vous avez bien écouté les derniers épisodes de Duke Nike, Ragnar doit vous dire quelque chose. Vous avez sans doute envie d'écouter, si vous avez envie d'écouter son histoire, allez écouter ce mono. Et il y a également Au coin de la rue qui a fini la saga avec six épisodes de Glop Glop. Allez les écouter et surtout, il faut aller voter. Parce que, comme il n'y a pas beaucoup de sagas, on n'a pas pu tous les awards ne vont pas être désignés, on va juste désigner la saga de l'été, mais c'est quand même important pour que ce concours puisse vivre, parce que mine de rien, il n'y en a pas souvent aussi populaires sur Lettre of Phoenix, donc c'est vraiment qu'ils puissent continuer. Donc allez-y, si vous avez écouté ces sagas, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas encore à les écouter, c'est vraiment le best qu'on peut avoir, c'est vraiment des créateurs qui se donnent à fond la plupart du temps pour vraiment faire de bonnes sagas, faire de bonnes créations, donc allez-y. Vous pouvez envoyer un MP à Johnny ou avec le titre Saga de l'été, vote, enfin le Saga de l'été, vous votez et vous dites la saga dans laquelle vous voulez voter. Tout est expliqué sur le topic, donc on mettra le topic dans le topic est plus bas dans la description de Rewind and Place, dans la partie revue de presse, que vous puissiez y aller. Pensez bien à participer à ce concours et de montrer que, comme nous, peut-être vous vous attachez à ici. Donc, pensez-y. Je vais terminer cette revue de presse qui a été ce qui a été. Et on va pouvoir passer tout de suite à la suite aux critiques.
Les critiques.
Et tout de suite, c'est Apollo qui va commencer avec Mad Max Good Questions de Kradukman.
Et ouais, Mad Max Good Questions de Kradukman. Kradukman nous propose donc un nouveau mono de son brawl, l'endroit où il regroupe toutes ses histoires courtes en tout genre. Mad Max Good Questions. Parodie, vous l'aurez deviné, du récent film de la série Mad Max, Fury Road. Dans cette histoire, Max est poursuivi dans le désert de l'Auvergne. Livré à lui-même, il devra échapper à ses poursuivants, tout en révisant son permis de conduire. Avant de commencer cette critique, j'aimerais vous dire que j'ai adoré ce mono. Franchement, ce fut pour moi un vrai plaisir d'écouter cette petite histoire de l'ami Kradukman. L'ambiance désertique du Wasteland est parfaitement retranscrite, et les bruitages de véhicules sont vraiment très bons. Le tout est très agréable à écouter, sans souci notable. La qualité technique de ce mono est très bonne, même si j'ai deux petites choses à dire dessus. Par exemple, j'ai vraiment la sensation d'avoir une voix trop différente des autres. La placer et appliquer des effets en sorte qu'on en ait l'impression qu'elle poursuit les personnages aurait peut-être été mieux. Et mon autre regret est sur les interventions des voix du permis de conduire. Ce que je leur reproche, c'est d'être beaucoup trop différentes, tant bien dans leur jeu que dans leur ambiance musicale. Leur placement est peut-être parfois un peu brusque. Et en parlant de ça, je vise surtout l'avant-dernière voix. Assez aiguë, même super aiguë, et qui arrive comme un cheveu dans la soupe. Par contre, j'adore énormément la voix de Max à la fin de chacune des questions de ses voix. Mis à part cela, le mono est un vrai délice à écouter, avec un très bon humour et une qualité technique quasi irréprochable. Un petit délice par contre, car il nous laisse un peu sur notre faim dans sa dernière partie. En bref, n'hésitez pas à aller écouter ce mono de Kradukman si vous êtes fan de Mad Max, de bon humour, de voitures ou de tout à la fois. Et vous pouvez retrouver ça sur www.kradukmanproduction.com avec un tiret entre Kradukman et Production, sans S.
Eh ben magnifique. Mais ce n'est pas tout, on va également écouter Et la Terre éclata de François TJP et Mimir Guido. Bon, on va pas vraiment écouter Et la Terre éclata, mais on va écouter la critique de Kwam.
Et oui, donc les capsules, bah là je vais parler des capsules 15 à 20 de Et la Terre éclata, parce que les épisodes 10 à 15 avaient déjà été critiqués par SDJ. Donc je vais revenir rapidement là-dessus. François TJP et Mimir Udo nous proposent une saga composée de 2 saisons, comportant chacune 10 capsules, chacune basée sur le thème de la fin du monde, où à la fin de la petite capsule, de la petite aventure, la Terre finit par exploser. Donc plusieurs scénarios différents, à plusieurs époques différentes d'ailleurs, que ce soit moderne, postérieure ou futuriste, c'est très 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 varié. Alors on retrouve on va retrouver dans les capsules 15-20 des thèmes comme le château de Versailles avec Louis XIV entouré de sa cour qui fait une exposition sur les nouvelles technologies et tout, ou une capsule basée sur un proviseur qui convoque des parents qui ont un élève au comportement plus que étrange. On retrouve aussi Zeus et Hera qui font une partie de jeu de rôle basée sur la Terre, qui va finir fatalement par très mal se terminer. On retrouve également une capsule assez longue, la capsule la plus longue jamais écrite par Mimir Udo et François, sur Noé, l'arche de Noé, la création de l'arche de Noé, où Dieu demande à Noé de créer une arche et de récupérer toutes les races existantes pour pouvoir aller les sauver, les mettre un peu plus loin, pendant que Dieu s'amuse à provoquer un déluge qui provoquera l'extinction de la grande partie de l'humanité. Alors c'est une capsule assez rigolote parce que ils ont ressorti un thème de Fall qu'on retrouve dans des histoires, les petits monos de Noël que Fall a l'habitude de nous faire avec la fameuse chanson « Pourquoi tu veux pas venir à la fête de Noël ?» Bah là c'est une petite reprise où une petite reprise assez rigolote que je vous laisserai écouter, je ne vais pas vous en dire plus. Et puis la dernière capsule, assez triste, où François TJP fait une lettre d'adieu à Mimir Udo qui va débarquer furieusement en DeLorean en disant « Viens, il faut qu'on aille dans le futur, parce que sinon il va se passer quelque chose, la Terre va exploser, ce sera de notre faute. » Enfin, c'est absolument rigolo. Je vous invite à tout aller les écouter, c'est à mourir de rire. C'est apparemment, il n'y aurait pas de troisième saison, c'est pas encore garanti. Je en plane dans le doute. Ça sera la bonne surprise. Apparemment, j'ai vu que François TJP avait prévu de créer une nouvelle série. Donc, je ne suis pas sûr qu'on retrouve tout de suite la Terre éclata. Mais bon, en tout cas, chapeau bas à ces deux auteurs. Alors ça, c'était pour l'histoire. Côté technique, c'est très bon. François TJP a vraiment l'habitude de nous produire quelque chose de qualité. Il y a du sound design bien employé et malgré la grande variété d'acteurs, les voix sont bien traitées. Après, d'un point de vue personnel, je trouve que dans l'ensemble, c'est un chouïa trop compressé et ça aurait mérité d'être un peu adouci. J'avais déjà fait la remarque pour ADN 2082 il y a quelques mois en arrière. Bon, entre-temps, François TJP a revu un peu ses réglages, mais je sais pas, je trouve que c'est encore un peu trop fort, au point que j'en suis venu à baisser le volume de mon lecteur quand même. Après, c'est vraiment pour chipoter, parce que c'est vraiment le seul détail qui fait un petit peu tâche. En bref, foncez, écoutez l'intégrale de cette saison 2 qui est Et la Terre éclata, et n'hésitez pas à vous repasser également la saison 1, elle fait du bien aux zygomatiques et aux oreilles, il y a vraiment des bons acteurs, franchement, allez-y, c'est un régal. Et c'est disponible sur le site studiotjp.com.
Merveilleux, comme tu dirais. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce que t'en penses, Apollo ?
Oui, d'accord, mais du coup, justement, Kéris, c'est pas à toi de parler maintenant ?
Ah, mais maintenant que tu le dis, par un heureux hasard, il se trouve qu'effectivement, c'est moi qui vous parlais d'Inglorious Beaches, le premier épisode de la dernière saga de saga. Enfin, je vais vous expliquer tout ce que c'est de saga. Alors, Inglorious Beaches par Eastune, le spin-off tant attendu de King of Bath, où les 7 princesses de cœur sont de retour pour finir la quête annexe du jeu dans le but de débloquer la fin secrète de King of Bath, blablabla. Ça, vous l'avez entendu un peu partout dans le trailer, dans les résumés. Je suis sûr que tout cela, vous le savez. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ce premier épisode est à la hauteur de nos espérances. Alors, ça a l'air simple, dit comme ça. Mais pour une saga qui a été si demandée, qui a été si attendue et, depuis l'annonce du projet, on n'a pas pu, je pense, s'empêcher d'idéaliser un peu à les sortir. On savait que quelque chose d'énorme allait sortir et on a un peu placé la barre assez haute pour Eastune. Et on a, au final, je pense qu'on n'est pas déçu, du moins pour les plus mitigés, pas de manière flagrante. Eh bien, je pense que tout d'abord, c'est parce que Eastune a fait un grand travail formidable à la réalisation. C'est pas brillant. Je pourrais pas vous citer de défauts techniques personnellement, peut-être. Mais c'est pas brillant, mais c'est à la hauteur de ce qu'on a entendu dans la fin de la saison 1 de Kingdom Path. Et on a des combats, enfin, il y a vraiment une évolution. On n'est pas retourné au début de Kingdom Path 1, donc bah, vraiment un très bon travail à ce niveau-là. Et aussi, bah, pas seulement qualité technique, hein, tout ce qui est de la mise en scène, de l'écriture. Et aussi parce que le trailer, je pense, a réussi à nous montrer clairement à quoi il fallait s'attendre dans cette saga. Je pense que ça a calmé un peu les ardeurs, le trailer ne nous a pas déçus, loin de là, ça nous a bien mis l'eau à la bouche, tout en montrant bien que la saga, ça allait être quelque chose comme ça, qu'on n'imagine pas quelque chose de trop puissant que Eastune ne puisse pas suivre. Par contre, j'ai quand même quelques remarques négatives à faire. L'histoire est malheureusement mal située dans l'espace. La quête débute très rapidement avec bien l'entrée hilarante de Pongo qui lance la quête de retrouver les chiots, hein, c'est un peu l'objectif de l'épisode 1. Pour ceux qui ont joué à Kingdom Path, on situe très bien la quête.
Kingdom Earth.
Merci. Tous ceux qui ont joué à Kingdom Earth, excusez-moi, comprendraient la confusion. Eh bien, ils comprendront un peu où ça se situe, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup joué, eh bien, on ne sait pas trop où on est. La saga commence assez rapidement. Au bout d'un moment, il y a des allusions qu'on est à travers, on comprend qu'on est à travers, mais quand dans Kingdom Path, on avait vraiment un peu un véritable dessin de ce que c'était. Il y avait le quartier des Clodos, il y avait la maison de Merlu, il y avait les shops où on pouvait acheter. On pouvait vraiment se repérer dans la ville, alors que là, les personnages sont lâchés dans le décor et ils marchent. Et si à certains moments, ils ne précisaient pas qu'ils étaient à travers, on n'aurait pas su qu'ils étaient à travers. Quand il y aura les transitions, on ne sait pas si c'était sur d'autres mondes. Bon, c'est pas un gros défaut. On comprend rapidement qu'ils sont à travers, donc on arrive bien à imaginer à partir de ce qu'on sait déjà ou à partir de ce qu'on ne sait pas. Mais bon, pour les personnes qui n'ont ni écouté Kingdom Path et qui ne connaissent rien à Kingdom Earth, si pour ceux qui ont fait l'un et l'autre, on sent quelque chose qui ne va pas, je pense que ça risque d'être un peu perturbant. Donc, c'est le début et je pense que maintenant qu'on a bien rentré dans l'histoire, comme l'introduction a été assez rapide, je pense que pour les prochains épisodes, on sera bien repéré et que la description de l'univers sera plus étoffée. Mais attention à ça. À part ça, vous l'aurez compris, c'est une très bonne saga qui pour une fois ne vient pas une bonne saga qui, à mon sens, ne vient pas d'un projet à part qui est arrivé dans le Netophonix, dans la communauté par sujet, puisque c'est le but du Netophonix de prendre les sagas MP3, mais c'est vraiment une saga MP3 qui s'est faite depuis l'intérieur, bien que Eastune a ses propres à des personnes en dehors de la saga sphère qui participent à la saga, mais il y en a pas mal. Vous pouvez trouver autour de vous des gens sans doute que vous connaissez si vous êtes là depuis longtemps sur Netophonix qui participent à cette saga. Je suis entouré de personnes qui participent à cette saga. Et d'autres que je connais de nom, que j'ai pu parler une autre fois, et je suis sûr que c'est le cas pour un bon nombre d'entre vous, dont vous avez au moins pu voir le nom, et ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez retrouver tout ce beau monde sur le Netophonix, sur le site de la saga, donc www.kingdombath.com. /205 si vous voulez arriver plus vite. Et il y a aussi une page Facebook IB Sega MP3 tout attaché. Si vous vraiment voulez suivre les actualités de la saga. Si vous voulez vraiment les dernières infos du jour, Eastune a commencé le dérochage de l'épisode 2. Donc, à sortir incessamment sous peu. C'est tout pour moi.
Eh ben, merci Kéris pour cette petite critique de Kingdom Path. Et maintenant, nous allons passer à Portal, épisode 8 de Erika. Et c'est Apollo qui va nous en parler, n'est-il pas? Merci Apollo.
De rien. Vas-y. C'est tout ton plaisir. Alors, Portail, épisode 8 par Erika. Et c'est donc à mon tour de vous parler de Portail, une saga que vous devez déjà connaître si vous nous suivez. Mais je vais quand même vous en rappeler le synopsis. Portail est une parodie du jeu Portal 1 de Valve. Dans son histoire, Erika nous raconte les péripéties de Shell via ses visites chez son psy. À celui-ci, elle lui raconte son expérience dans les locaux de Fermeture Science. Danger et révélation l'attend là-bas. Dans cet épisode 8, Shell se rapproche dangereusement de la fin de son parcours. Mais avant une dernière épreuve, elle se rend malgré elle dans le musée de sa vie, où elle va découvrir la vérité sur certains points du scénario, notamment sur sa présence ici. La qualité technique est au rendez-vous, comme dans les précédents épisodes. Le scénario suit son cours et avance petit à petit vers la résolution de l'histoire. D'ailleurs, on peut dire que, même si l'humour est toujours présent, le scénario semble pencher vers une mise en scène plus mystérieuse, voire parfois tragique, et c'est pas pour me déplaire. Par contre, je reviens sur la qualité de l'épisode. Pas grand chose à reprocher, mais quand même, j'ai quelques trucs à dire. Étonnamment, sur la voix de Luffy, il y a des soucis. Son enregistrement souffle et pop, assez souvent. Pourtant, il a une bonne qualité, d'après ce que j'ai connu de ses enregistrements. Ce qui ternit un petit peu le tout. Heureusement, il a quelques répliques seulement au début, donc ça passe. Mais l'autre souci que j'ai, c'est sur la voix de Destrocorn. La qualité et le jeu est très bon, mais en fait, ce qui me dérange réellement, c'est le placement de la voix dans l'espace. Je m'explique. Destrocorn joue la voix du musée, une voix retraçant la vie de Shell. Mais le placement de la voix est étrange, car elle est mise en sorte de venir d'un endroit précis, avec un effet d'haut-parleur. Ce que je trouve dommage, c'est que cette voix n'est pas omniprésente dans le musée. Elle aurait dû venir de partout en même temps, faire corps avec le musée au lieu de seulement venir que d'un endroit précis, telle une voix de Dieu qui raconte quelque chose. Malgré ses défauts, je sais pas vraiment si on peut dire défauts, c'est plus des constatations personnelles, mais cet épisode se laisse écouter avec un grand plaisir. Nous laissant sur un petit cliffhanger, nous avons vraiment l'envie de connaître la suite, et nous l'écouterons, toujours avec autant de plaisir.
Oh, c'était beau.
Oh, merci.
Nous allons parler de Evil Tales, de Le Scénic, et c'est Zorgun qui va nous faire sa petite critique dessus.
Petite, en effet, mais très certainement pas vite pour autant. Alors, bon, Evil Tales est une saga d'heroic fantasy de Le Scénic. On en est au troisième épisode. Alors que dire sur ce troisième épisode, si ce n'est que bien qu'étant moins pire que les précédents, il n'en reste pas moins bourré de défauts. Faisons simple, pour commencer, défaut principal de la saga, ses personnages. C'est simple et un peu bourrin, le jeu d'acteur est au mieux très moyen, sinon simplement mauvais, ce qui est encore desservi par la qualité des micros des acteurs, ou la qualité de l'acteur tout court d'ailleurs. J'ai cru comprendre que le Scénic joue au moins deux des personnages principaux, donc le jeu d'acteur assez mauvais, équilibrage sonore pas top, qui a tendance à nous exploser les oreilles par surprise, dialogue mal écrit et relativement ennuyant, ce qui est quand même un peu bête d'ailleurs, une saga MP3 c'est bien souvent une majorité de dialogue, et là ces devirtels sont, disons, plutôt médiocres. C'est bête en plus, hein, car même si l'histoire de prophétie qui tourne autour du héros utilise des ficelles scénaristiques grosses comme des poutres de cathédrale, le background général de l'univers ne semble tout à fait imaginatif et de facture tout à fait correcte, donc c'est autant plus bête. Après, faut bien noter que je ne veux vraiment pas être méchant avec le Scénic et avec ses créations, hein, mais le fait est que je me suis, à titre spécifiquement personnel, vraiment ennuyé en écoutant cet épisode. De plus, les seuls ressorts comiques de la saga sont liés à un des personnages les plus irritants que j'ai jusqu'alors rencontré dans mon voyage sagasphérique, Styx. Ce démon colicrélif m'a fait l'effet d'être simplement formellement stupide. Les blagues tournant autour de lui ratent immanquablement, soit à cause d'un timing très mauvais, trop de latence qui rend le tout mou, soit car il est tout simplement pas drôle de base et avec peu de chance de faire rire quoi que ce soit, bon timing ou pas. Malgré ça, malgré le fait que Virtual soit pas vraiment ce que je qualifierais d'une excellente saga, allez quand même l'écouter. Il n'est pas impossible que vous trouviez des choses à dire le Scénic, des conseils à lui donner pour l'aider à s'améliorer. C'est quelque chose qu'il faut faire, en fait. Écouter les sagas qui sont pas forcément top pour aider leur créateur à s'améliorer. Et en parlant d'amélioration, je souhaite vraiment à le Scénic de s'améliorer au fil de sa saga. Saga qui est d'ailleurs retrouvable sur l'Ornithophonic, sur son site officiel et sur son SoundCloud, tous portant le nom d'Evalir Tales.
Bien, merci Zorgun, c'était transpirant de
gentillesse comme d'habitude.
De gentillesse comme d'habitude, c'est ça. Merci quoi.
Je sais, je suis un petit sucre en Nutella.
Voilà. Tu vas me sauver quoi de ce moment de gêne en me parlant de Faut-il Check, en nous parlant à tous de l'épisode 4 de Faut-il Check, fait par notre chère LSN.
LSN et Keldin.
LSN et Keldin, tout à fait.
Exactement. Alors, je vais vous faire un petit speech de l'histoire parce que c'est un petit peu compliqué, Faut-il Check. Alors, je reprends le texte du topic officiel du Netophonix. Au début, ce n'était qu'une saga MP3. Rien de bien méchant, simplement quelques checkoman hurleurs dont on se riait comme dans un Benny Hill. Qui rigole maintenant qu'ils nous ont terrassés? Ah, je me souviens, cette bande-annonce de l'époque qui racontait 2011 en France, des vies tout à fait banales s'apprêtent à être bouleversées dans le quotidien d'individus sans lien les unissant entre eux. Tout va être mis en question. Faut-il Check est plus qu'une simple saga MP3. Il s'agit d'une expérience sociologique sans précédent mettant en scène des anonymes tels que vous et moi dans des situations jamais encore expérimentées à l'audio. Préparez-vous à être check! Ceci est mon histoire et elle n'est pas drôle.
Ouais.
J'ai eu beaucoup de mal à comprendre le sens profond de Faut-il Check. je n'ai pas tout simplement pas réussi à retranscrire le plat de spaghettis qui a été cet épisode pour en faire quelque chose de cohérent à l'écrit. Donc, je vais juste vous dire que c'est assez what the fuck. C'est extrêmement délirant. C'est assez drôle si on aime le style. C'est un peu particulier. Ça fait un peu penser à la Ligue des Deux de DL Squeal ou encore la parodie Phone The Director's Cut, toujours de DL Squeal. C'est très bordélique. LSN et Keldin s'amusent en plus à reprendre des scènes ratées, des répliques. Genre, à un moment, il y a Richult qui fait sa réplique normale dans l'épisode, et puis après, en fait, dans les enregistrements, on l'entend qui dit j'ai jamais écouté Faut-il Check à part l'épisode 1. Et puis, plusieurs fois, on l'entend comme ça, ou alors, d'habitude, j'écoute pas les sagas des autres gens. Parce que, voilà, j'ai pas envie de copier. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, c'est assez what the fuck. Il y a même tout un passage où, bah, justement, il y a DL ou Squeal, j'ai oublié, excusez-moi. DL ou Squeal qui font de l'impro. Et LSN et Keldin ont gardé la réplique. En fait, c'est DL ou Squeal qui raconte une petite histoire d'un écureuil. Qui a rien du tout à voir avec l'histoire, enfin avec le peu d'histoire que j'ai compris, mais bon.
Écureuil.
Oui, un écureuil qui raconte son histoire. Il y a un moment où les héros sont dans un tunnel, ils rencontrent une witch, l'équivalent d'une witch de Left 4 Dead, qui est toute seule dans son coin, qui arrête pas de répéter faut-il check, faut-il check, faut check, faut check, faut check, et puis elle se met à hurler, puis elle saute sur les gens et le héros sort une poêle à frire de son slip. Et la somme à coupe de poêle, oui, d'accord, c'est bon, ouais.
Je sais pas ce que c'est ce bouillon, mais ça a l'air délicieux.
Faut aimer, c'est très, comme j'ai dit, c'est très bordélique. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est assez drôle, même si j'ai rien compris.
quoi, mais il aime bien quand c'est droit, hein, quand oui, même. Hein.
Alors,
j'avais jamais entendu aussi perturbé.
Il faut que le scénario soit cohérent quand même, mais là, il y a rien qui est cohérent. Les enregistrements ne sont pas cohérents, l'histoire n'est pas cohérente.
C'est cohérent dans la cohérence.
Il n'y a aucun respect dans cette saga.
ça fait un peu genre, c'est le film d'étudiante, c'est en mode. Alors, on a mis les trucs et ça fait un film, c'est génial, n'est-ce pas?
Ouais, voilà, il y a Norbert qui a pété dans l'aquarium, c'est rigolo, on a gardé le rush, enfin voilà, c'est à peu près ça. Mais oui, non, j'ai bien aimé. En plus, côté technique, c'est plutôt bon, c'est bien enregistré, c'est bien... Ça sature pas, il y a du panning, c'est... Non, il n'y a pas grand-chose à redire dessus, mis à part le fait que, voilà, si c'est pas votre genre, vous risquez fort de passer votre chemin au bout du... au bout du deuxième épisode, hein. Mais comme le dit l'auteur, si vous n'avez pas aimé l'épisode 1, je vous conseille d'écouter l'épisode 2. Si vous n'avez pas aimé l'épisode 2, je vous conseille d'écouter l'épisode 3. Si vous n'avez pas écouté, ainsi de suite.
Ah oui, alors, mais attends, je crois qu'on se fait avoir là.
Oui, on se fait un petit peu avoir, mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même envie de continuer. Donc au final, je pense qu'ils ont gagné leur pari. Donc, je vous conseille d'aller écouter. Hein. C'est une expérience sociologique, après tout. Hein.
Dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était pas Babar.
Ouais, non, c'est pas le niveau de Bababar, quand même.
C'est un
truc un peu différent, quand même. C'est un peu mieux fichu, on va dire.
Faut-il check est une religion.
Et ouais, on va dire ça, ouais, ça rend dingue, en tout cas. Et c'est disponible sur le site corbac.nohostmis.fr. Même le nom du site est galère. corbac.nohost.me, voilà.
Alors, on se fera un plaisir d'aller checker ça.
Voilà, exactement. Je crois
qu'on va pouvoir... Donc, tu vas pouvoir conclure cette émission, cette fois, Zorgun, avec Projet Moebius, épisode 1 de Fallen Swallow. Qu'est-ce que tu as nous à raconter de beau?
Bien, en effet, une fois n'est pas coutume, je conclue l'émission avec ma critique. Et bien, Project Moebius, autant j'ai pas forcément été très gentil avec Cavalier Tales, autant là, je pense que je vais être plutôt élogieux.
Alors, Projet Moebius, qui n'a rien à voir avec le dessinateur de BD, est une saga que j'attendais beaucoup depuis que j'avais vu les postes de recrutement d'acteurs. Et je dois dire que je ne suis pas exactement déçu. C'est une saga de Fallen Swallow qui, pour ce que j'en ai vu, n'est jusque-là participé à une autre saga, et surtout en tant qu'actrice. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'univers et les personnages ont l'air soignés. En fait, toute l'écriture, de celle du background à celle du scénario, semble avoir été le fruit d'une bonne dose de réflexion, et ça fait vraiment plaisir à entendre, vraiment. La saga prend place dans un univers sombrement introduit de la sorte. Là, je cite le synopsis. Quelque part dans l'espace intersidéral, sur une planète ressemblant comme deux gouttes d'eau à la Terre, l'espèce humaine a été quasiment éradiquée. Aujourd'hui, ces hommes et femmes ont une apparence humaine, possèdent une génétique modifiée, retravaillée par les scientifiques de la compagnie HLSO, Human Labor of Science Organic. Ne subsiste désormais que des aliens, des chimères, des robots et des robots créés par une intelligence artificielle supérieure du nom de Lab. Life Armament Beyond Generide. Ce nom. Bref. Nous sommes en l'an 3024, je vis actuellement dans la plus grande cité de la planète Necrog, je suis une chimère du nom d'Arcadia et ceci est mon histoire. Donc nous avons ici affaire à une saga de science-fiction et comme vous l'avez peut-être déjà compris, la narration se fera par les personnages, pensant littéralement des segments entiers d'exposition pour aider le spectateur à s'y retrouver. Mais c'est bien fait, donc ça passe extrêmement bien. C'est une narration à la première personne par les personnages qui passent bien. Du point de vue technique, il n'y a pas grand-chose à dire ou à redire. Hein. Les micros sont bons, les ambiances travaillées et les musiques finement choisies. Avec un volume parfait, ça cruste donc très bien dans l'action. Et en matière de montage, donc, nous avons là un travail tout à fait honorable qui rend très bien honneur à l'écriture. Je suis néanmoins navré de ce que je vais désormais dire, mais j'ai un peu de mal avec le jeu et deux personnages principaux, Van et Arcadia, joués respectivement par Yggdrasil, coucou à toi qui nous écoute, et par Fallen Swallow himself. En effet, leur jeu souffre de problèmes assez similaires. Le niveau d'implication semble relativement variable, rendant parfois des répliques un peu caduques, et les syllabes sont de temps en temps un peu trop articulées, ce qui casse un peu l'immersion, à coups de marteau au burin. À côté de ça, les autres acteurs jouent vraiment très bien leur rôle, donc c'est d'autant plus dommage. Enfin, mis à part ce point qui relève vraiment du détail facile à régler, je n'ai rien à ajouter. Project Moebius est une saga de très bonne facture, enfin un premier épisode en tout cas de très bonne facture, et je suis sûr qu'il amènera un développement scénaristique des plus intéressants. Aussi, je vous invite donc à aller l'écouter, on le trouve uniquement sur le Netophonix pour le moment. Et le premier épisode est donc totalement disponible, allez-y, écoutez, c'est de la bonne.
Formidable. Merci beaucoup, Zorgun, c'était magnifique.
Mais c'est...
un plaisir.
À chaque fois, on a les oreilles qui brillent.
Les
oreilles qui brillent.
Oui,
bon,
oui, c'est
terrifiant.
Plutôt les yeux qui brillent.
Ah non, puisqu'on le voit pas, techniquement. Mm-hmm. C'est une métaphore, quand même, ça explique la distance entre le talent et l'allitération qui permet la profondeur.
Je sais ce qu'il cherche à cacher sa nature de mutant. Faut faire attention.
Je crois qu'il est temps d'en finir. Hein.
Je crois qu'il est temps d'en finir, oui.
Just adieu. Take my money.
Je pense qu'on va. Oh, nous n'allons pas mourir, non. Pas tout de suite, en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, la page Ways Avengers, on a un Twitter @RewindAvengers, on a un topic Tétophonix, on adore voir vos topics, nous dire ce qu'elle est pas, ce qu'elle est bien.
On aime bien avoir vos avis, en fait, c'est avoir un retour, c'est très important.
On aime bien avoir des critiques.
Exact.
On n'ira pas si loin, sinon ça finira en épisode de Yu-Gi-Oh, mais on va pouvoir conclure cette émission et on va pouvoir dire au revoir à tous nos beaux auditeurs en leur rappelant qu'il faut voter pour la saga d'été.
Votez
Big Brother.
Ne restez pas sans voter.
Bon, et ben allez, gros bisous les gens.
Au revoir tout le monde.
À plus tout le monde.
Écoutez les Sayers.
C'était Rewind and Play. À bientôt pour de prochaines critiques. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.